vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard.
Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, bonne semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien. Hein? J'ai eu des petites vacances récemment. Ça fait du bien. Et je vous en parle pas aujourd'hui. Hein. Je vous avais déjà dit que je vous parlerai de ces vacances-là avant qu'elles n'arrivent. Mais je vais vous en parler la première semaine de novembre. Pourquoi? Parce que, bon, au mois de novembre, hein, c'est un mois un peu plus tranquille. C'est un mois où l'automne commence à se faire sentir. Alors, je vous parlerai de mes vacances à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Et on se reporte à il y a à peu près un mois, jour pour jour. Êtes-vous allé voter? Et je vous demande ça pour plusieurs raisons. Est-ce que vous êtes du style à vouloir exercer votre droit de vote? Est-ce que vous avez de l'intérêt pour la politique, les différents partis pour lesquels on peut voter? Et si la réponse est non, est-ce que vous n'allez pas voter à cause de l'accessibilité dans les bureaux de vote? Parce que ça se pose comme question. Il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même très peu d'aide pour voter. Et depuis, en tout cas, 3 ans, moi, je peux dire que à la compagnie où je travaille, on produit les listes électorales, c'est-à-dire les candidats auxquels vous pouvez voter sont écrits en braille sur une liste. Et je me rends compte un petit peu à chaque fois que malheureusement, c'est une information qui est encore peu connue. Moi, des fois, je dis aux gens, t'es allé voter, est-ce que tu as eu notre liste braille, tu sais, qu'on a produit? Et on me dit, ben non, j'étais même pas au courant qu'il y avait une liste. Donc ça me déçoit un peu parce que je me dis, bon, les gens le savent pas encore. Donc, c'est pour ça un peu que je vous posais la question, est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous vous faites encore accompagner? Est-ce que vous êtes déjà allé voter seul? Moi, je suis allé. Là, les 2 dernières fois, je suis allé voter seul. Il y a une des 2 fois qu'on m'a dit qu'il y avait une liste en braille. L'autre fois, il a fallu que je la demande. Ça a été quoi vos expériences? En tout cas, moi, je me dis, là, hein, on est encore avec un gouvernement minoritaire. On va peut-être avoir des élections dans moins de 4 ans. La prochaine fois qu'on va aux urnes, là, il faudrait qu'il y ait plus de gens renseignés. Alors, je me dis, vous n'êtes pas obligé de me répondre, de répondre à ma question, mais je me dis, il faudrait se trouver un système pour que les adaptations qui sont mises en place soient encore plus connues et que les gens s'en servent. En attendant, une petite entrevue très sympathique aujourd'hui avec quelqu'un de très dynamique qui a fait aussi plein de choses, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on a un handicap visuel.
Cette semaine, notre invitée est Pierrette Thériault.
Cette semaine, je vous présente une dame qui, elle aussi, a accepté tout bonnement et tout simplement à participer à Connaissez-vous. Elle s'appelle Pierrette Thériault. Tout d'abord, bonjour Pierrette.
Bonjour Martin.
Ça me fait plaisir que tu aies accepté tout bonnement parce que la semaine dernière, on ne se connaissait pas. Hein? Et on s'est parlé et voilà, aujourd'hui, on est ensemble pour Connaissez-vous, comme on disait tantôt. Hein, rendez-vous réussi, rendez-vous respecté d'une part et d'autre. Et c'est comme ça qu'avec le projet, on est rendu à près de 175 entrevues. Alors, voilà.
Je te dis bravo d'ailleurs.
Ben merci beaucoup, mais comme je le dis toujours, hein, c'est parce que les gens acceptent de participer que on peut faire autant d'entrevues. Si les gens avaient toujours dit non, bien, il n'y en aurait pas beaucoup. Alors, c'est un travail d'équipe, encore une fois. Mm-hmm. J'avais envie de commencer, comme je commence à chaque semaine, en te demandant, dans le fond, est-ce que tu es à l'aise de nous dire un peu à quelle époque tu es né et à quel endroit?
Oui. Alors, moi, je suis née dans les années 50 et je suis née dans la merveilleuse province du Nouveau-Brunswick.
Ah, donc, d'accord.
Je suis donc d'origine acadienne, mais je suis déménagée ici, à Québec, dans la ville de Québec, à l'âge de 6 ans. Et c'est pourquoi j'ai commencé l'école ici et j'ai perdu mon accent. Par contre, quand je veux m'amuser, je suis capable de prendre l'accent quand ce que je veux.
Vous êtes t'es capable de le reprendre.
J'ai capable de l'entendre et de le dire parce que j'ai encore de la famille qui habite au Nouveau-Brunswick. Alors, je suis de cette époque-là et c'est ça. Et d'origine, et fière d'être acadienne aussi.
Ben certainement, puis c'est un beau coin en plus. Moi, je n'y suis jamais allée, mais je me promets bien d'y aller à un moment donné. Mais tu as quitté jeune pour... Là, en ce moment, on se parle, évidemment, encore une fois, à distance. Là. Toi, tu es à Québec depuis tout ce temps-là?
Depuis tout ce temps-là, oui, j'habite à Québec et j'habite vraiment dans le plus beau coin de la ville de Québec, c'est-à-dire en face des plaines d'Abraham.
Ah, wow! Ça, c'est vrai que c'est bien. Mm-hmm.
Et en étant non-voyante... J'habite aussi dans le cœur de la ville où tout est accessible pour moi, soit à pied avec mon chien guide ou encore avec les circuits d'autobus et aussi avec la grande chance que j'ai aussi d'avoir le transport adapté. Donc, je suis très confortable dans mon coin et j'ai les services d'épicerie, de pharmacie, toutes sortes de magasins d'alimentation et de restaurants et je me promène à tous les jours avec mon chien et les gens sont super gentils et me connaissent et connaissent aussi et connaissent mon chien. Quand je me promène souvent, j'entends derrière moi des gens Ah, c'est Napoléon! Parce que mon chien s'appelle Napoléon.
D'accord. Je suis content qu'en début d'entrevue comme ça, on parle du côté agréable, du côté accessibilité, du côté où tu as l'air d'être quelqu'un qui sort, qui ne s'empêche pas justement de vivre des choses et qui a aussi accès à des services qui nous facilitent la vie parce qu'on s'entend que le transport adapté dans certaines situations, c'est quasiment préférable.
Et... C'est absolument, surtout quand tu ne sais pas où tu t'en vas.
Ben oui.
Quelles adresses. Et moi, ben, comme plusieurs... Bien, j'ai une cécité totale maintenant, mais je ne l'ai pas eue toute ma vie.
Bien, commençons par ça. Oui, comment ça s'est produit, ça?
Bon, alors moi, comme beaucoup de non-voyants, je suis atteinte de la rétinite pigmentaire.
Oui, effectivement, on entend souvent ça.
On entend souvent ça. Donc, j'ai, étant jeune, j'avais un champ de vision très restreint. Et j'avais une cécité nocturne. Mais quand j'étais jeune, je ne savais pas que j'avais un problème visuel. Et ce n'est qu'à l'adolescence où on me l'a confirmé. Donc, jeune, c'était embêtant pour moi. Je faisais plein de gaffes. Il m'arrivait toutes sortes d'accidents. Et je ne savais pas la raison. Mmh. Et dans ma petite tête d'adolescente, malheureusement... Je pensais que j'étais peut-être moins intelligente que la moyenne parce qu'il m'arrivait tellement de choses. Et quand j'ai appris que j'avais la rétinite pigmentaire, que j'avais une maladie des yeux sévère et qu'il fallait immédiatement que je débarque de ma bicyclette, eh bien, j'ai, contrairement à des gens qui apprennent qui ont une cécité, moi, j'étais comme soulagée. Soulagée de savoir que j'étais pas plus idiote qu'une autre.
C'est ça. C'était pas un problème intellectuel, c'était les yeux.
C'était les yeux, mais quand on est adolescent, on mêle toutes ces choses-là.
Ben oui.
Fait, on fait des gaffes, puis on se demande pourquoi, puis on est insécure, on n'est pas bien dans sa peau. Puis, toute jeune, j'avais une rétinite pigmentaire, mais ce qui n'a pas empêché de faire une vie presque complètement normale. Je pourrais dire que mon champ visuel, quand au meilleur de ma vision, c'était à peu près grand comme... si je faisais une comparaison avec des fruits, eh bien, comme chacun des yeux pouvait être un pamplemousse.
Okay,
si on peut s'imaginer, c'était ça la grandeur de l'espace que je voyais. Et je ne voyais pas ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Et j'avais naturellement une cécité nocturne, c'est-à-dire aussitôt qu'il faisait sombre, pour moi, c'était l'obscurité totale. Mais bêtement, je pensais que tout le monde était comme ça. Personne ne voyait quand il faisait sombre.
Mais c'est très important ce que tu dis là, parce que comment on peut savoir ça quand on est jeune? Hein? On pense qu'on est comme tout le monde.
Comme tout le monde, en effet. Et tranquillement, au fil du temps, eh bien, cette vision-là, au début de la vingtaine, oups, j'ai perdu la vue complète d'un œil. Donc, ça me fait comme la vision, la grosseur d'un pamplemousse qui pourrait être mon champ de vision. Mais c'était quand même assez pour faire une vie assez normale. J'ai fait plusieurs choses. J'ai eu différents emplois. J'ai toujours été artiste dans le fond de l'âme. J'ai fait du théâtre plus jeune. Je suis allée en arts plastiques au Cégep Sainte-Foy. Et pour gagner ma vie, ben, j'ai eu un emploi au gouvernement du Québec. Vivre en tant qu'artiste, il faut savoir vivre pauvrement.
c'est ce qu'on entend souvent. Hein?
Oui, mais, faut savoir être pauvre.
Mais revenons un peu à l'enfance. Oui. À l'école, comment ça se passait? Parce que là, tu disais, bon, je faisais des gaffes, tout ça, mais à l'école, est-ce que tu réussissais quand même à bien suivre? Est-ce que...
Oui, je réussissais à bien suivre parce que le champ de vision que j'avais, OK, et je portais des lunettes parce que j'étais myope. Donc, ce que je voyais en face de moi et l'écriture et la lecture, ben, c'était clair. C'était pas okay. Grand, mais c'était clair. Donc, j'ai pu étudier. J'étais pas une élève exceptionnelle. Mais quand même, ça allait. C'est seulement dans les sports, quand on est jeune, dans la cour d'école et qu'on joue des sports de ballon et tout ça, je n'arrivais jamais à attraper le ballon. Et c'est pour ça que j'étais jamais choisie dans les équipes de sport. Et j'ai même, plus jeune, je voulais faire partie des guides et des scouts. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui allait dans ce mouvement-là. Et une journée de fin de semaine, là, il y avait trop de monde. Ils ont fait comme des... pas des tests, mais ils ont fait une journée de sport et tout ça. Mais j'étais tellement mauvaise là, que j'ai même pas pu faire partie des guides.
Oh non!
Alors que toutes mes copines, elles, faisaient partie des guides.
Ah!
C'est des embêtements qui sont venus à cause de ma vision. Et je ne le savais pas encore.
Mais c'est comme... ça ajoutait un peu à ce
petit stress-là qui disait, coudonc, je suis donc pas comme... Je suis donc pas fine.
Je suis donc gaffeuse, je suis donc maladroite. C'est comme...
C'est ça.
Ah, c'est plate pareil, c'est vraiment plate.
Oui. Mais ça a fait son temps. Puis quand j'ai su que j'avais quelque chose qui était assez sévère, ben, ça m'a soulagée, puis j'ai vu la vie d'une autre manière.
C'est ça, ça explique les choses, puis après ça, on peut prendre d'autres dispositions.
C'est ça, ben, j'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance d'avoir des emplois que j'aimais beaucoup. Alors, et tout ce temps-là, ben, ma vision diminuait. Là, on est rendu au début de la vingtaine, où j'ai une vision où la périphérie est grande, à peu près comme la grosseur d'une orange. Après ça, ça diminue tranquillement au fil du temps et c'est tellement subtil, ça fait pas mal, mais ça sent, et tu ne crois jamais que tu ne verras pas. Moi, j'ai jamais cru que j'allais
okay.
perdre la vue là, complètement, je n'ai jamais cru ça.
Que le fruit diminuait, oui,
mais... Oui, c'est ça. Ça diminuait, mais c'était tellement subtil. Et puis, tu sais, oh, tout à coup, ah, je vois plus l'autobus au loin. Ah, je suis plus capable de faire ci. Ah, je suis plus capable de faire ça. Puis là, oups, c'est devenu gros comme un citron. Après ça, gros comme une limette. Donc, le trou devenait de plus en plus petit. Jusqu'à ce que, à la fin, ça devient comme un bleuet.
Oh boy!
Donc, un bleuet, puis après ça, c'est dur à calculer à partir de ce moment-là.
Ben là, oui, là, c'est vraiment petit.
Oui, c'est vraiment petit. Et à ce moment-là, ben, j'ai arrêté de travailler parce que c'était difficile de me rendre à mon travail. Mais j'ai toujours continué, par contre, à dessiner. J'ai toujours fait de l'illustration entre la bande dessinée et la caricature, très colorée. J'étais un petit peu connue dans un milieu bien restreint comme étant une illustratrice qui faisait des cartes de souhait, des posters pour toutes sortes de raisons. Et j'ai toujours dessiné tout au long de ma vie. Et jusqu'à la dernière limite de ma vision, j'ai continué à dessiner. Et à la fin, je voyais, si je dessinais sur une feuille 8,5-11, je pouvais pas voir l'entièreté de mon dessin, mais ma main était tellement faite, était tellement agile au dessin que je réussissais à dessiner même si je voyais pas, oups, la fin du dessin. En tout cas, et j'ai fait aussi de la photo en masse pendant presque une vingtaine d'années et je trouvais qu'en regardant dans l'objectif là, de la caméra,
on voit mieux.
Oui, j'avais l'impression que mon angle de vision était encore meilleur.
Ben, moi aussi, j'ai trouvé ça. Je n'ai pas fait beaucoup de photos, mais j'ai déjà eu une fois pour m'amuser un appareil photo. Puis c'est ce que j'avais l'impression. Quand je regardais à travers, là, j'avais l'impression que je voyais mieux ce que je visais comme portrait. Là. Puis, revenons encore un petit peu... à l'école, ben, tu sais pas, oui, ben, vous êtes, quand t'es parti de ton lieu de naissance, comment ça s'est vécu, ça?
Ben, j'étais trop jeune, là, pour vraiment avoir une idée là-dessus. Moi, je suivais mes parents mon père avait été transféré du Nouveau-Brunswick à la ville de Québec, et je venais tout juste d'avoir 6 ans, et je commençais l'école, ici à Québec, mais j'étais une petite Acadienne, moi, là, qui parlait avec l'accent acadien, là, puis mes parents aussi, et je sais que la première année, à ce moment-là, il n'y avait pas de maternelle. Quand j'ai fait ma première année, je sais que mon premier bulletin, le bulletin qu'on a à Noël, là, de septembre à décembre, je passais pas. Je passais pas parce que je comprenais pas la maîtresse. Elle parlait pas la même langue que moi. Elle ne parlait pas la même langue à laquelle j'étais habituée.
L'accent était tellement fort que...
Oui, l'accent était fort, fait que la maîtresse, là, je la... Oui, tu sais, puis pour moi, la chanson « Il était un petit navire », là...
Oui.
Moi, chez nous, là, c'était des bateaux. Il y avait des bateaux, puis c'était pas... J'avais jamais entendu ça, un navire. Puis beaucoup de chansons, là, que je comprenais pas, là...
Les références, là, un peu...
C'est les références, oui, sérieusement. Mais ça a été vite oublié, tout ça, là, puis je suis devenue une vraie Québécoise, là, comme tu vois.
C'est ça, ça s'est ajusté, puis après ça...
C'est ça.
Et c'est ça, là, au secondaire, les arts, tout ça, c'est arrivé tôt, ça, dans...
Oui, j'ai toujours été attirée vers les arts. J'ai toujours aimé faire du dessin, de l'illustration. Et aussi, j'ai eu la chance, quand j'étais adolescente, de faire... partie d'une troupe de théâtre pendant quelques années, et même vers 18, 19 ou 20 ans, à l'époque, il y avait des projets pour les jeunes qui s'appelaient des projets Perspective Jeunesse, et avec un groupe de jeunes avec qui je me tenais, on a créé des projets, et on était payé l'été, là, pendant 2 étés de suite, j'étais payé pour faire du théâtre, faire une création collective. Et je sais qu'un été, on a fait toutes les paroisses de la côte de Beaupré et de l'île d'Orléans aussi. On se promenait avec un spectacle pour enfants dans les terrains de jeu. Alors, okay. pendant, deux années de suite là, dans ma tendre jeunesse, là, 18, 19, 20 ans, là, j'ai fait du théâtre. J'ai même pensé à un moment donné que je m'inscrirais à l'école d'art dramatique. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Je suis allée en art plastique plutôt au cégep. Là. C'était le beau temps des hippies. C'était le temps des révolutions. C'était des temps des contestations des jeunes. Puis beaucoup de liberté de toutes sortes.
Oui, il y a eu comme un changement là, niveau le de gros, ça.
Oui, un gros, gros changement. Puis au cégep, c'était un droit de passage. À l'âge adulte, et en art plastique, on était extrêmement libre. Nos professeurs étaient presque aussi jeunes que nous. Donc, c'était une époque que moi, j'ai adorée. Et j'ai voyagé après ça. Et à cette époque-là, tout le monde allait dans l'Ouest. J'ai été, moi aussi, à Vancouver, 4-5 fois en train, aller-retour, pour le plaisir, là, pour le plaisir de voyager. Et je suis aussi allée en Europe avec une copine là, avant l'âge de 25 ans. Puis après ça, bon, je me suis trouvé un emploi. Puis c'est le hasard qui a fait que je me suis trouvé un emploi au gouvernement. J'ai travaillé dans un hôtel à la réception et aux réservations. Puis j'avais une amie qui me disait, « Ah, je m'en vais m'inscrire à un concours pour le gouvernement. Si tu viens avec moi, on pourra le faire ensemble. » Je dis, bon, « OK. » Fait que je suis allée, puis c'est ça qui est arrivé. Le hasard a fait que j'ai passé un concours, puis oups, je suis tombée fonctionnaire. Puis au moment où je suis tombée fonctionnaire, ça faisait un an que j'y travaillais. Et à ce moment-là, pouf, les fonctionnaires avaient droit à un mois de vacances. Fait que, tu sais, j'ai tombé dans un bon bassin là, où j'ai été bien chanceuse. Et j'ai fait quelques ministères au gouvernement. Et je peux dire qu'à tous les endroits que j'ai faits, j'ai toujours été bien accueillie et j'ai toujours trouvé les gens fort sympathiques. Et même dans un petit organisme où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, où j'étais la réceptionniste, on a fondé une troupe de théâtre aussi. Et on a présenté un spectacle, une parodie de la vie des fonctionnaires.
Oh, OK.
Puis on a présenté là, des salles de 500 personnes, là, plusieurs au collège, entre autres dans la salle du collège Saint-Charles-Garnier, qui est quand même une bonne salle ici à Québec.
Ben 500 personnes, là, ça commence à, ouais, ça commence ben oui. à être de l'auditoire. Là.
Oui, par contre, à ce moment-là, ma vision diminuait encore. Et quand on était plusieurs à jouer, et souvent il y avait comme des changements de costume derrière les rideaux, et tu rentrais par une porte, mais il fallait ressortir puis retrouver une autre porte plus loin. Et j'avais mes collègues de travail qui m'aidaient à me déshabiller, à me rhabiller et à m'amener de l'autre côté complètement de la scène pour que je puisse sortir au bon endroit, parce que c'était trop sombre à ce moment-là. Trop sombre pour que je puisse le faire de moi-même. Fait que déjà là, à ce moment-là, au début de la trentaine, là, j'avais commencé déjà à avoir des problèmes là, en tout cas, dans l'obscurité, dans la noirceur.
Plus de restrictions, là, de...
Plus de restrictions, c'est ça.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mais quand même, ce qu'on comprend, c'est que t'avais de l'aide, ça fait que ça t'empêchait pas de le faire. C'était plus... Ça demandait peut-être un peu plus de logistique, là, parce que...
C'est ça, exactement. Puis, je peux dire que jusqu'à ce que je sois obligée d'arrêter de travailler, là, à la fin de la quarantaine, là, tout près de 50 ans, ben j'ai fait une vie presque normale, complètement normale. Et comme j'étais un peu comédienne, ben j'ai fait semblant souvent que je voyais plus que ce que je voyais. Mais à un moment donné, on ne peut plus mentir.
On peut plus, mais il y a eu un moment où il y avait comme un mécanisme de cacher un peu ça, les choses qu'on a plus de difficultés ou qu'on est...
Oui, puis c'est ça, je demandais le dernier emploi que j'ai eu, là, c'était quand même un emploi assez important. Je travaillais dans un cabinet de sous-ministre et j'ai travaillé à l'accueil. Et puis, je me souviens, il y avait du tapis et il y a... À quelques reprises, des gens se sont présentés devant moi, mais comme je les entendais pas, puis que ma vision était extrêmement restreinte. Les gens sont piqués devant moi pendant de longues minutes avant que je sache qu'il y avait quelqu'un devant. Fait que, et puis mes collègues à la fin aussi, mes collègues, lorsqu'ils passaient devant mon bureau, je leur avais dit que ils se rendaient bien compte là, que je voyais pas ou presque pas, et ils se nommaient en passant devant mon bureau. Je suis telle personne, je suis telle personne, je suis telle personne. Puis là, ben, ça devenait de plus en plus difficile pour faire mes tâches. Puis à un moment donné, lors d'une opération, là, pour essayer de corriger quelque chose, bon, j'ai décidé que c'était là où j'allais prendre ma retraite de cet emploi-là. Mm-hmm.
Un peu jeune, mais quand même. Là.
Un peu jeune. Après ça, j'ai passé à autre chose.
Mais quand tu postulais pour des postes, ça se dit pas, ça, postuler pour des postes?
En tout cas... Ben oui, moi je comprends très bien.
c'est un pléonasme, je pense. Tu le disais pas jamais qu'il y avait pas dans ce temps-là des accommodements ou des adaptations ou...
Non, je me dis tant que je pourrais faire semblant puis que ça paraîtra pas, je vais y aller sans m'identifier. Et je l'ai fait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin où là, c'était trop évident. Donc j'ai arrêté de travailler parce que j'étais handicapée visuelle. Mais avant ça, là, non, j'ai vraiment tout fait pour... après ça, quand j'ai arrêté de travailler, là, c'était trop dangereux. Là, il a fallu que je pile sur mon orgueil puis que je commence à utiliser, entre autres, la canne blanche.
C'est ça, là. C'était un petit peu ma prochaine question, là. C'est ça, là. Si on décide d'arrêter de travailler parce qu'on est non-voyant, ben là, quelque part, il faut, j'imagine, commencer à utiliser des aides puis commencer à occuper sa vie autrement que par le travail. Là.
Oui, puis la canne blanche, j'aurais dû l'utiliser des années et des années avant.
Mm-hmm.
Mais je ne l'ai pas fait.
Ben, ça ne marchait pas avec ton style de vie. Là.
C'est ça. Mais quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai trouvé ça tellement utile, mais pas les premières fois. Les premières fois, quand j'ai appris à me servir de la canne blanche et que c'était vraiment, vraiment nécessaire, je me souviens encore de mes premières sorties. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est définitif. Je me fais identifier comme étant une personne handicapée. Puis je me souvenais moi-même d'avoir regardé au loin une aveugle avec une canne blanche, tu sais, de regarder, de voir son chemin, tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est moi maintenant. Les gens autour, je suis identifiée, ils vont trouver ça intéressant. Ah, une personne aveugle, on va voir où est-ce qu'elle se rend. Fait que j'étais comme un petit peu en dehors de mon corps et je marchais avec ma canne, mais je me sentais vue par d'autres comme étant une personne handicapée.
Comme tu avais regardé d'autres faire.
Comme moi, je l'avais fait auparavant. Mm-hmm. Mais sincèrement, là, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Ça n'a pas duré si longtemps que ça parce que j'ai vite appris comment c'était pratique d'être identifié, puis comment c'était pratique aussi pour éviter des obstacles.
Là. C'est ça, pratique et sécuritaire.
Oui, parce que quand tu vois la grosseur là, d'un raisin, là, c'est pas un grand champ de vision. Hein?
Non, non, non.
T'en manques pas mal. Puis... Mais même avec un champ de vision de grosseur d'un raisin, je pouvais quand même être au coin de la rue et si je me plaçais dans le bon angle, je pouvais encore distinguer un signal de piéton. Je pouvais voir la lumière du piéton.
OK.
Ça restait assez longtemps. Là, OK, c'était peut-être juste ça que je voyais. Je voyais ni le poteau, ni les véhicules, ni le trottoir, ni rien. Mais si je faisais un panorama, là, oh, OK, là, c'est le signal du piéton. OK, j'attends, c'est la même. Ah, OK, là, je peux marcher.
Mais que... ça, c'est important ce que tu dis aussi, parce que peu importe la vision qui nous reste ou le champ visuel qu'on a, ou en tout cas, il y a des choses qu'on est capable de voir et ces choses-là sont importantes, même si elles sont minimes.
Oui, très. Le peu que tu vois, tu te fies là-dessus. Je pouvais voir le trottoir et s'il y avait quelqu'un qui se promenait devant moi, je voyais ses pieds. Donc, je suivais des pieds. Mmh. Parce que je me disais, cette personne-là, elle va pas tomber dans un trou, elle va pas foncer sur rien. Je peux donc suivre des pieds, mais je ne voyais que des pieds, ou peut-être même un pied à la fois. Tu sais, OK, on est sur un trottoir, OK, il y a des pieds là, mmh. Fait que je suis... Ben, on utilise tous les moyens qu'on peut.
C'est ça, puis dans les circonstances, les pieds, comme tu disais, c'était ça bon, l'idéal à suivre. Là.
C'est ça, c'était des pieds à suivre, en effet. je suis tombée à une autre étape par la suite, quand je suis allée me chercher un chien guide.
Oui, comment c'est venu ça, cette idée-là?
Ben là, vraiment, là, mon raisin qui tombe à un bleuet, là,
ouais.
Là, ça, c'est vraiment pas beaucoup, là. Puis avec la cécité nocturne en plus. Alors, j'ai fait ma demande à la Fondation Mira et j'ai travaillé avec des intervenants ici à Québec en mobilité, en orientation. Et je suis allée à Sainte-Madeleine pour chercher mon premier chien. J'en ai eu 4 à date.
Et le premier, c'était en quelle année, ça?
En 2001.
OK.
Ça fait donc 20 ans.
Oui, OK. Donc, 4 chiens en 20 ans.
En 20 ans, c'est ça. Et je dois dire que la première fois que je suis allée chez Mira, à cette époque-là, il y avait encore Éric Saint-Pierre qui était le directeur et Nicolas Saint-Pierre qui travaillait aussi comme entraîneur. J'ai trouvé ça assez difficile.
Le premier chien, c'est quelque chose, hein? C'est long, oui. Quand même, la première fois.
C'est ça, puis je mets les animaux d'avance, donc j'ai toujours aimé les animaux. Mais là, c'était plus un toutou de la maison, là, c'était vraiment mon instrument de travail, mon animal sur lequel j'allais devoir me fier. Et il fallait que je cherche comment l'utiliser. Et ça aussi, c'est tout un apprentissage, la confiance, puis... Alors, le premier chien, et je savais pas à cette époque-là à quel point je suis tombée sur une perle, parce que c'était un bouvier bernois, c'était une femelle, et ils m'en ont donné une bonne parce qu'elle était très, très lente. Tu sais, c'était pas énervé du tout, ça marchait pas tough. J'ai donc toujours resté sur le trottoir, jamais tombé en bas de la chaîne de trottoir. Tu sais, ça évitait les obstacles, mais lentement. Il fallait... Et je savais pas ma chance pour un premier chien. Tu sais, c'est comme ça qu'il fallait vraiment commencer.
Mais est-ce que ça te convenait quand même? Est-ce que au départ, t'aurais-tu pris un chien plus rapide?
Ben, je connaissais pas la différence.
OK.
Tu sais, on sait pas. Quand c'est le premier chien, on sait pas. On pense que tous les chiens guides, ça doit être comme ça. Je ne le savais pas, mais je l'ai beaucoup aimé. Et malheureusement, après quelques années, j'ai dû m'en défaire parce que elle avait des craintes et c'était bizarre parce qu'elle avait peur des cloches. Hein? Cette chienne-là, elle avait peur des cloches et à la fin, je n'arrivais pas à rentrer dans un édifice public où il y avait des ascenseurs. Parce que quand les ascenseurs arrivent au palier...
Ah! Même ça, elle avait peur.
Oui, surtout ça, elle avait peur. Elle se revirait de bord, puis elle me sortait dehors. Et elle se souvenait des édifices où il y avait des ascenseurs.
Puis elle voulait
donc pas plus me faire rentrer. Et même les autobus aussi. Les autobus, ça, c'était étrange, parce que c'était pas... Tu sais, la sonnerie, on demande... On sonne pour
descendre, là. Mm-hmm.
Pour descendre. Mais elle, c'était pas toutes les sonneries qui lui faisaient peur, c'était un modèle d'autobus particulier de telle année, probablement que celui qui a produit la sonnette. Ils ont probablement changé de compagnie et le tintement était l'effrayait tellement, elle paniquait. Alors, avant d'entrer dans un autobus, je demandais, je me souviens plus quelle année que c'était, je demandais au chauffeur, êtes-vous un modèle 2007, admettons. Oh,
fallait vous assurer d'être dans le...
Ben, oui, je pouvais pas rentrer dans les 2007. Et les chauffeurs, naturellement, comprenaient pas. Ils disaient, oui, madame, c'est un plancher bas, vous êtes correct. Non, je veux vraiment savoir si vous êtes 2007.
C'est ça, puis c'est là, pas la question du plancher, là.
Non, ils comprenaient pas pourquoi, je leur disais pas tout de suite que c'est... Puis quand ils disaient oui, ah, j'ai dit, je désolé, je vais devoir prendre l'autre autobus.
Hey, mais ça peut quand même être problématique.
Oui, fait que j'ai plusieurs choses comme ça qui me sont arrivées, là, que les cloches, là, la terrorisaient. Donc, ça devenait, bien que c'était un chien excellent et parfait, mais cette crainte-là a fait que j'ai dû la mettre à la retraite prématurément. Alors, j'en ai eu trois autres après. Et maintenant, je suis avec Napoléon.
Oui.
Qui est un bouvier, pas un bouvier bernois, mais un labernois complètement noir.
OK.
Un chien qui est plus malcommode que mon premier, qui est beaucoup plus agité, qui est beaucoup plus olé-olé, mais qui me rend en sécurité à destination. Alors, c'est ça qui est important.
Et est-ce que le passage, comme admettons, du premier au deuxième chien, du deuxième au troisième, est-ce que ça se fait quand même assez... chaque chien est différent, a son caractère,
Exactement. Chaque chien est différent, chaque chien a son caractère. Chaque entraîneur aussi, chaque classe est différente. Probablement que les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup là-dedans qui sont allés chez Mira se chercher un chien. Et chaque classe est différente. On rencontre des gens qui sont de partout à travers la province et même du Nouveau-Brunswick. Et on vit intimement avec ces gens-là pendant un mois à Sainte-Madeleine. Et on prend nos repas ensemble, on travaille ensemble. Donc, c'est toujours une aventure que moi, j'ai toujours aimée. J'ai okay. toujours aimé me retrouver parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée parce que mon troisième chien a eu un cancer et j'ai été obligée de le faire endormir. Et les classes n'étaient pas commencées et je me suis retrouvée pendant 6 mois avec une cécité totale à être en hiver, à être obligée de demander l'aide aux entraîneurs, mais aux gens de Québec qui font la mobilité.
Ah oui, OK, au centre de réadaptation.
C'est ça, parce que, tu sais, j'avais pas travaillé avec la canne blanche depuis des années et des années, puis là, je me retrouvais sans vision en hiver.
C'est ça, sans vision, et puis l'hiver, c'est pas la période la plus facile.
Non, puis je me suis retrouvée pas mal isolée chez moi. J'ai même appelé comme la popote roulante là, où on venait me livrer des repas là, quatre fois par semaine.
OK.
Pour pas toujours dépendre de mes amis puis tout ça. Mais celle-là, je l'ai trouvée dure là. Moi, je voulais au moins sortir dehors pour faire au moins un pâté de maison, tu sais, un bon 15 minutes. Mais juste 15 minutes en hiver là. J'ai trouvé ça assez difficile.
C'est ça, dans des conditions peu favorables, là, c'est pas plaisant. Là. C'est pas...
Exactement, puis c'est insécurisant. J'ai réussi à le faire, là, mais j'allais pas me promener pour le plaisir, j'allais vraiment me promener pour prendre de l'air, parce que je voyais, après avoir eu un chien guide, là, je voyais aucun plaisir à m'en aller, Dieu sait où, avec une canne blanche, alors qu'il y a des montagnes de neige à gauche, à droite, la glace sur le trottoir. J'ai trouvé ça très difficile. 6 mois, là, quand j'ai eu le téléphone de Mira qui m'appelait pour aller à ma classe, là, j'étais aux oiseaux.
Ça a été comme un soulagement, là, puis de dire, oui. Bon, on va pouvoir reprendre une vie plus...
plus normale, plus sécuritaire, plus, faire des plus longs trajets. Je marche tous les jours de 2 à 6 kilomètres.
Hey, quand même, là, 6 kilomètres, ça commence à faire. Ben,
en fait, 6 kilomètres, c'est parce que j'ai refait mon 2 kilomètres 3 fois.
Ben, quand même!
je reste à peu près à 1 kilomètre d'une rue où il y a tous les services. Et quand je reviens, ça fait 1 kilomètre. Des fois, par des belles journées, ah, je retourne dans l'après-midi pour autre chose. Et si on est une super belle journée d'été, ben je peux peut-être retourner en soirée pour aller me chercher un cornet de crème glacée et revenir à la maison.
OK, c'est que tu comptes pas tes pas, là. Tu comptes pas le nombre de fois que tu vas te déplacer.
Non. j'ai d'ailleurs fait un petit enregistrement audio qui est un peu humoristique, là, avec un petit accent acadien de moi qui se retrouve dehors dans le milieu du trafic avec mon chien, et j'explique aux gens quoi faire quand ils rencontrent une personne qui est non-voyante avec un chien guide.
Okay.
Et je les invite à me parler, premièrement, à me saluer, et j'explique aussi qu'il ne faut pas parler au chien, qu'il ne faut pas le toucher, et je leur explique aussi que le chien a certaines choses qu'il doit faire, qu'il connaît, mais il ne connaît pas la lumière verte, la lumière rouge puis la lumière jaune.
Ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est le chien qui dit qu'il a traversé.
Ben oui, ils pensent que c'est le chien qui décide au feu de circulation. Alors qu'on a travaillé tellement longtemps avec un professionnel en mobilité pour savoir justement à quel moment on peut traverser quand il n'y a pas de signal sonore. Fait que j'ai fait un petit audio là, humoristique, là, mais... On pourrait vraiment croire là, que je suis poignée dans le gros trafic, là. Puis que je suis en train de dire aux gens, suivez-moi, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec mon chien guide.
Et ça, c'est une vidéo que tu as fait toi-même pour le
plaisir? Pour le plaisir, pas une vidéo, j'ai dit peut-être une vidéo, mais c'est vraiment un audio. Un audio que j'ai fait moi-même, chez moi, juste pour le plaisir. Pendant la pandémie, hein, il fallait se trouver des choses intéressantes à faire. Et puis, comme j'ai un petit peu côté comédienne, ben je me suis inventé un texte, et j'ai trouvé une application sur ma tablette là, avec des sondes. Et puis, je me suis préparée, puis j'ai dit, qu'est-ce, on va faire ça. Et je pense que c'est drôle, en tout cas, ça fait sourire des gens. Je sais que je l'ai fait entendre à une de mes amies non-voyantes au téléphone. Elle était sur mes lips, et elle avait de la visite à la maison, puis elle disait, écoutez ça, c'est mon amie Pierrette qui va vous expliquer comment ça marche. Et les gens qui étaient chez elle, sa sœur, son frère ou son beau-frère, je sais pas trop, des gens qui voyaient, là, ils étaient tous, oh mon Dieu!
Il avait
peur que je sois dans le milieu du trafic!
Il pensait que tu parlais en direct du trafic, là.
Oui, il pensait que j'étais vraiment dans le trafic alors que j'étais assise très confortablement dans mon salon.
On va essayer de l'intégrer dans l'entrevue si on est capable de le faire entendre.
OK.
Je me posais comme question, on parlait comme du premier chien, mais est-ce que le contact avec les personnes non-voyantes, ça, est-ce que les premiers contacts, c'est arrivé quand et comment, ça?
C'est arrivé assez vite. Quand je travaillais, j'ai su qu'il y avait un groupe de gens qui avaient un café rencontre une fois de temps en temps, des gens qui avaient la rétinite pigmentaire. Et ça, c'est il y a longtemps, longtemps, alors que je travaillais encore. Et je réussissais à prendre un congé une fois de temps en temps pour assister à ces cafés rencontres-là. Et aujourd'hui, ben, je fréquente beaucoup de gens qui sont non-voyants, mais qui sont quand même dynamiques, puis qui sortent au restaurant régulièrement, puis qui font certaines activités. Donc, je suis encore en contact là, avec des gens là qui voient peu ou qui voient pas du tout, et des gens qui ont aussi des chiens guides. On se rencontre à l'occasion. Ça a été un peu moins fort là, pendant la pandémie.
Évidemment, mais, ben oui.
Mais on va espérer qu'on va pouvoir se rencontrer encore. Longtemps et qu'on ne sera pas confiné encore.
Donc, le premier contact là, de d'être au courant qu'il y a des groupes de discussions puis de rencontres puis tout ça, puis d'y aller, hein, de prendre le d'avoir le guts là, d'y aller, de dire un jour on y va, puis on va voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se dit, puis qu'est-ce qui...
Puis comment les gens font, puis c'est quoi leur truc Puis où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur vie professionnelle, s'ils travaillent encore, s'ils ont été obligés d'arrêter de travailler. Moi, je me compte chanceuse d'avoir une vie, d'avoir vécu une vie normale, puis d'avoir travaillé normalement malgré mon handicap qui était assez lourd, là.
Oui, oui, puis d'avoir fait des choses, tu sais, comme la photo, du dessin.
Oui.
Tu sais, c'est pas tout le monde qui a pu faire ça.
Puis, puis jusqu'à la fin, j'ai dessiné et je voyais que c'était imminent probablement que peut-être que je croyais pas, mais que peut-être que je verrais plus un jour. Donc, j'ai fait, et comme je te disais, mes dessins sont comme une bande dessinée, comme des personnages de bande dessinée. Mais j'ai mon style propre à moi. J'ai donc fait une foule de dessins, des chats, des chiens, des souris, des grenouilles, des moines, des religieux. J'ai fait une foule et j'ai fait des tableaux aussi. Et maintenant, j'ai une bonne amie pour qui je faisais des posters quand je voyais être mieux. Et elle faisait partie d'un club sportif. J'en ai fait autant comme autant. Et maintenant, c'est elle qui est mes yeux. Elle a emmagasiné dans son ordinateur au moins... si c'est pas 100, c'est 500 de mes tableaux et,
oh là là.
Et de mes dessins qu'elle a dans son ordinateur et avec et elle habite à Montréal et justement sur FaceTime on travaille ensemble et ça m'arrive régulièrement de faire imprimer différentes choses des tasses, des aimants, des gilets ou des tabliers mais surtout des petits aimants qui sont grandeur carte d'affaires avec une petite pensée. Et quand je vais me promener et faire mes courses, et ça m'arrive régulièrement de me faire aider par plusieurs personnes lors d'un petit voyage là, sur la rue Cartier. Et à chaque personne qui le veut bien, je leur offre un petit aimant pour mettre sur leur frigo, comme le dernier aimant qu'on a pondu, parce qu'on fait une espèce de brainstorming pour mettre des petites phrases humoristiques, eh bien, c'est le dessin d'une personne non-voyante avec un large sourire. Tout ce qu'on y voit, c'est des dents et une paire de lunettes noires, mais qui a aussi son chien guide.
OK.
Et derrière ce personnage-là, il y a un gros œil, mais un vrai œil. Donc, elle marche, elle pointe devant, elle marche avec son chien guide, c'est très drôle. Et en dessous, c'est écrit, on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ça fait que c'est un petit aimant ces temps-ci, là, ça m'arrive souvent là, d'en offrir au moins trois à des gens que je croise puis qui m'ont donné un coup de main.
Hey, mais c'est une belle phrase en plus, c'est tellement
oui.
Vrai.
Oui, puis j'en ai un autre que j'ai... on change régulièrement. J'ai un autre, c'était comme un chanteur de blues avec une guitare. Il sort comme d'un trou noir. Là, on le voit de la taille, là, puis il y a une guitare, puis il y a une grosse paire de lunettes de soleil, puis il y a un chapeau de bluesman. Là, et c'est écrit « Être aveugle, c'est rock'n'roll ».
ce qui est pas faux non plus, hein?
Ce qui est pas faux. Fait que c'est ça. Alors, même si je dessine plus depuis plus que 15 ans et plus, ben, je me souviens très bien de mes dessins et je peux les faire revivre grâce à cette copine-là qui, elle, est super contente parce que, comme je lui ai fait des choses à l'époque pour ses clubs sportifs, maintenant, elle a l'impression qu'elle crée aussi avec moi parce que elle dit OK, on va y mettre un petit cadre noir parce qu'il y a du noir là. Puis je pense que les lettres, ça serait mieux les lettres jaunes plutôt que blancs parce qu'il y a du jaune à tel endroit.
OK.
Puis on choisit la calligraphie ensemble, la grosseur. Puis j'ai dit bon, j'aimerais que l'image occupe au moins trois quarts du petit aimant puis que le texte soit juste un quart de l'image en bas. Fait qu'on crée ensemble les petits aimants, quoi.
Et l'aspect, ce que j'en comprends, c'est que l'aspect visuel a encore une grande importance pour toi, là, parce que tu es encore capable de figurer un peu que ça va prendre 75% le texte Oui. Le 25 % puis ça a une importance, là.
Oui, puis j'ai dit, non, pas un cadre noir, mais un cadre rouge là-dessus. Oui, mais il n'y a pas grand rouge, c'est pas grave, je vais avoir un cadre rouge là-dessus. Puis on écrit en blanc. Puis on va écrire ces mots-là en noir, tu sais. Fait que, oui. Et oui, ça reste encore dans ma tête et j'ai encore une très, très, très bonne mémoire de tout ce que j'ai fait, là. Surtout à la fin, là, je voulais, en précipitant les choses, j'ai fait une foule de dessins comme pour Noël, pour toutes les fêtes, des lapins, mais j'ai fait toute la panoplie d'animaux possibles.
OK. Hey, c'est intéressant quand même parce que...
Puis c'est très drôle, là. Tu sais, c'est difficile à décrire quel type, mais c'est vraiment comme un peu de la bande dessinée.
C'est ça, il y a un aspect humoristique, il y a un aspect, j'imagine, caricatural peut-être un peu, si on parle de bande dessinée.
Oui, exactement, exactement. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait aussi plusieurs expositions de mes tableaux et je me suis souvent servi de la photographie comme base pour faire un fond à mes personnages humoristiques.
OK.
Du collage, je mettais un personnage humoristique sur un fond, un mur de briques ou la fenêtre d'une maison qui était fleurie. Je mettais mes personnages devant et en faisant agrandir et encadrer, j'ai fait peut-être dans ma période qui était la plus prospère, peut-être une cinquantaine d'expositions à Québec.
Aïe. Okay.
Pas toujours dans des grands endroits, mais quand même, dans des petits cafés. Et j'ai exposé à deux reprises au Grand Théâtre de Québec parce qu'ils avaient une salle d'exposition. Puis j'ai exposé aussi avec des amis. J'ai exposé à Montréal aussi avec un organisme qui essaie de faire la promotion des personnes handicapées. Alors, mais ça a fait son temps. À un moment donné, j'étais tannée, là, même si je pouvais exposer à tel endroit. Comme ma vision était nulle, ben ça demandait à un ami de venir à la maison. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon salon, au lieu d'empiler mes tableaux, j'en ai tout près d'une centaine, au lieu de les empiler dans un hangar, eh bien j'en ai au moins 41 dans mon salon. Ça fait quasiment comme une salle d'exposition.
Ben oui.
Alors, je demandais à un ami ou à une amie de venir chez moi et de me décrire quels étaient les tableaux, de les enlever du mur, de les transporter dans son véhicule, parce que, et une fois rendu à destination, à la place où je les exposais, ben de les mettre au mur aussi.
C'est
ça. Puis si l'exposition dure un mois, ben après un mois, si j'en ai 15... On les enlève, on les ramène à la maison, puis on les remet sur les murs, pas nécessairement au même endroit où ils étaient à la base, là. Ça fait que j'étais comme tannée aussi de demander de l'aide.
Oui, il y avait moins le côté que tu pouvais participer de façon autonome, là.
Oui, absolument rien faire, même. Tu sais, je pouvais pas aller le décrocher, puis même le transporter jusqu'à l'automobile, je pouvais pas le faire non plus parce que tu vois pas, fait que...
Ouais, pas de cogner avec ou quelque chose.
C'est ça.
Mais pendant les expositions, par contre, ça devait être des belles occasions de, justement, discuter. J'imagine qu'il y a des gens qui venaient te parler, qui venaient te poser des questions. Ça devait être...
Oui, ben, très intéressant, oui. Puis c'est comme je te dis, c'est dans l'humour... C'est donc pas traditionnel.
C'est ça.
C'est pas un paysage de Charlevoix, c'est pas des portraits. Donc c'est un peu à part, c'est un petit peu marginal. Mais c'est ça, c'était mon genre. Et puis...
Ça devait peut-être démystifier un peu, des fois, les gens de venir nous poser des questions ou de... dans un cadre un peu moins sérieux, peut-être.
Oui, puis... J'étais pendant quelques années aussi, j'étais sur la Grande Allée ici à Québec. Il y avait une église désaffectée qui maintenant n'existe plus parce qu'ils l'ont détruite. Eh bien, il y a une vingtaine d'artistes qui sont allés s'installer là pendant deux étés et qui peignaient. Alors moi, je me suis installée là aussi avec de mes tableaux et aussi de mes aimants qui étaient un peu plus grands. Et c'est ça, j'ai vendu quelques aimants à des touristes, puis quelques tableaux aussi. Alors pendant 2 étés, j'avais de l'aide aussi de gens qui étaient, les artistes qui étaient là, là pour. Mais dans l'ensemble, je me débrouillais fort bien là, à cet endroit-là, dans une grande église. C'était un milieu assez intéressant avec d'autres artistes. Je voyais encore un tout petit peu à cette époque-là d'être avec des artistes qui peignaient sur les lieux. Là, ça, j'ai trouvé ça une expérience très intéressante.
Une belle ambiance, puis agréable. Oui. On parlait tantôt de l'importance là, des organismes, puis de pouvoir assister à des groupes, des cafés, puis tout ça. Et je trouve ça très important, j'en parle souvent, j'incite souvent les gens justement à s'informer des fois quand ils ont des besoins particuliers ou des envies de rencontrer des gens, de sortir, d'avoir des fois des raisons de sortir. Je trouve ça vraiment très important parce qu'il existe des organismes dédiés à nous. Mais il existe aussi d'autres sortes de services dont tu sembles te prévaloir. Là, tu parlais de pour l'épicerie, tout ça. Tu fais affaire avec des trucs en ligne. C'est quoi exactement que tu...
Non, pas nécessairement en ligne. Je suis habile, mais pas si habile que ça, admettons, pour faire mon épicerie en ligne. Ça c'est un petit peu
un
plus...
Un peu intense?
Oui, un peu plus difficile pour moi.
Okay.
Mais je fais partie quand même de regroupements de personnes non-voyantes à Québec qui ont des activités. Et depuis quelques années aussi, une fois par semaine, je suis un cours avec des non-voyants pour favoriser la mémoire. Et ça fait en même temps, ça fait... une sortie sociale. Là. Je peux dire que pour l'épicerie et tout ça, je m'arrange fort bien parce que je suis connue dans les commerces autour de chez moi et je n'ai qu'à rentrer dans le commerce, me présenter à la caisse et on me demande ce que j'ai besoin. Et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont très généreux avec moi et qui vont m'aider n'importe quand. J'ai un frère aussi si je dois aller au centre commercial pour quelque raison que ce soit, qui va m'accompagner. Donc, je ne suis pas dépourvue.
Pas dépourvue et débrouillarde. Et d'être connue, ça peut aider aussi dans les circonstances, dans les commerces.
Oui, oui, oui. Puis, ils sont toujours contents quand j'arrive avec un nouvel aimant. Ah! Un nouvel aimant! Il en faut une collection, et à la pharmacie ou à l'épicerie aussi. Ah, ça c'est nouveau! Ah, celui-là, je l'ai!
Ah, c'est le fun, pareil, hein? Ça fait comme une chose de plus là, qui suscite l'intérêt. Puis,
Oui, mm-hmm. Donc on m'accueille toujours très bien. Il faut être de bonne humeur aussi. Il faut être de bonne humeur quand on a un chien guide. Quand on se promène avec un chien guide, on se fait questionner énormément. Je ne sais pas si toi, tu as un chien, mais...
Moi, j'en ai pas, mais je connais plusieurs personnes qui en ont. Ça, forcément, ça. Des fois, je me promène avec eux, puis...
OK, pour votre chien, comment il s'appelle? Il a quel âge?
Ah oui, les questions,
ça,
hein?
Ouais. Ben, c'est ça. Donc, il faut répondre. Il faut leur dire, ben, il faut pas le toucher, madame. Il faut pas lui parler.
Faut pas le déconcentrer.
Oui, c'est ça. Puis quand ils disent « Oh, je suis pas capable de m'en empêcher. »
Ah oui, ça, c'est vrai qu'on entend ça aussi. Hein?
Ça, c'est bête un peu, là. Il touchera pas un chien policier, là, qui est au travail.
C'est ça. Ça fait qu'un peu de retenue quand même, hein, les gens.
T'sais? C'est ça. C'est ça. Oui.
C'est un chien qui est au travail quand même. Hein?
C'est ça, oui. Puis il y a sa petite pancarte même qui dit « Ne pas déranger chien au travail. »
C'est ça, c'est pas pour rien, ça fait que...
Mm-hmm.
Et des voyages, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que...
Il n'y en a pas beaucoup. Dernier voyage que j'ai fait, c'est justement il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, que j'ai fait en Acadie avec un groupe de mes amis ici. parce que ça donnait qu'au village acadien, tout près de Caraquette, ils ouvraient un nouveau magasin général sur le site du village acadien.
OK.
Et ce magasin général-là, c'était la copie exacte du magasin général de mon arrière-grand-père.
Ah!
Alors, c'est ça. Alors, je suis allée pour l'inauguration.
Ça avait une signification, là.
Ça avait une signification.
Familiale.
Oui.
Pour toi. Mm-hmm. Ah, OK. Ah, ben, c'est intéressant.
Oui. Mm-hmm. Puis j'en ai profité parce qu'il y avait aussi la fête des Acadiens et puis on est allé se baigner. Mais, tu sais, quand on ne voit pas, il faut vraiment se préparer longtemps d'avance et puis. Et puis, quand tu voyages, tu es dans un nouvel environnement, tu as donc besoin vraiment du... pas nécessairement du chien, hein, parce que le chien, si tu sais pas où tu t'en vas...
Il connaît pas plus la place.
Là. Il connaît pas plus, donc tu as besoin plus de l'humain là, que du chien.
C'est important de le préciser, parce que des fois, on y pense pas. Hein, on dit, la personne a peur avec son chien, puis...
Non, mais le chien, on lui dit pas en sortant. OK. Caisse populaire! Non, c'est toujours la personne non-voyante qui doit lui donner toutes les directions. C'est tourner à gauche, tourner à droite. Il faut toujours savoir se situer dans l'espace. Surtout quand il y a des travaux. OK, il y a des travaux là. Il faut donc que je bifurque puis que je m'en aille vers là. Puis si je m'en vais vers là, OK, ça va faire 3 rues de plus à traverser. Puis OK, une lumière. Tu sais, il faut vraiment calculer là, son trajet. Là. Ça demande une concentration. C'est pour ça qu'on demande aussi aux gens de pas toucher au chien parce que, oups, s'il touche au chien, puis le chien, oups, il bouge un peu, oh, on n'est pas dans le même angle, puis on repart dans le mauvais angle.
Ben c'est ça, là, ça peut arriver,
là,
ça.
Oui, là, on est rendu, on ne sait plus trop, là.
On est perdu, peut-être.
On est perdu.
on parlait un petit peu de la pandémie. Moi, je trouve que... Hey, on a-tu entendu parler de la pandémie, hein, puis des vaccins, puis de ci, puis de ça? Mais forcément, comme tu l'as dit, il fallait s'occuper. Tu disais aussi que, bon, la technologie, t'es habile, mais pas à n'importe quel prix, là, pas dans tout, puis tout ça. Mais c'est quoi tes intérêts au niveau de la technologie?
Ben entre autres, pendant la pandémie, j'ai fait partie de 3 groupes qui se rejoignaient une fois par semaine sur Messenger. Donc sur Messenger, je suis assez habile pour aller jaser avec les gens, faire un 5-7. Puis c'est la même chose sur FaceTime. J'ai une tablette et un téléphone iPhone.
Okay.
Mon téléphone, je le prends avec moi par mesure de sécurité uniquement. Je travaille sur la tablette plus que sur le téléphone.
Okay.
C'est ma tablette qui a toutes les applications avec YouTube et toutes sortes de différentes applications de nouvelles et je vais fouiller.
Toi, tu as ramené le téléphone à sa fonction de téléphone.
De téléphone. Téléphone, recevoir un courriel ou un texto. Et aussi avec la radio, YouTube, si jamais je suis pogné à quelque part dans une salle d'attente pendant 3 heures, ben au moins je peux aller écouter des postes de radio ou aller sur YouTube faire des recherches. Là. Mais c'est surtout la fonction téléphone qui est une fonction sécuritaire. C'est surtout ça. Puis pour le transport adapté, c'est la même chose. J'ai besoin de téléphone parce qu'il n'y a pas d'autres moyens.
Des fois, on a à les appeler ou c'est...
Oui, pour retarder ou annuler ou quoi que ce soit.
Ou s'ils nous cherchent. Ou... c'est toujours
oui, pratique. C'est ça. Exactement. On est bien chanceux d'avoir le transport adapté.
Ben, je le disais tantôt, hein. Oui, effectivement, on est chanceux. Mm-hmm. C'est pas parfait. Hein?
Non, c'est pas parfait, mais on est dans un pays riche là, qu'on peut avoir le transport adapté. C'est quand même un taxi qui nous mène d'une porte à l'autre, même si on fait la ronde de lait, mais on se rend à destination.
Exactement. Et des fois, quand c'est dans des endroits non familiers ou des endroits qu'on prévoit pas aller souvent, Des fois, c'est plus simple de dire, bon, je vais prendre le transport adapté. Je me badrerai pas à prendre le trajet. En tout cas, moi, ça arrive des fois que je me dis ça.
Oui, j'utilise peu l'autobus. L'autobus, je l'utilise pour de courtes distances ou si j'utilise l'autobus, c'est parce que on va me rencontrer à l'arrêt, à un arrêt.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et je vais pas me promener comme ça là, pour le plaisir n'importe où. Là, on est quand même limité. Là, pas de vision. Là,
Ben, c'est que ça demande beaucoup encore là. Hein? On parlait tantôt mm-hmm. avec le chien, mais il faut savoir mm-hmm. où on s'en va, il faut savoir où on descend, puis après ça, il faut savoir où est la bâtisse. Où...
Bon, oui, où rentrer. Oui,
puis oui, mm-hmm. la même chose pour revenir. Il faut retrouver l'arrêt dans l'autre sens. Puis bon, ah, oui. C'est sûr que c'est beaucoup d'énergie.
Exactement, oui. Mm-hmm.
Ben, en tout cas, je ne sais pas s'il y a autre chose dont tu voudrais nous parler ou si on a fait un bon tour de ta vie, si on a fait un bon portrait.
Ben, moi, je trouve que oui, là.
Hein? Oui, puis on a appris plein de choses. On a mis, encore une fois, beaucoup de choses de l'avant. C'est incroyable. Moi, quand j'ai entendu parler de dessins, de photos, d'expositions... Je me dis, hey, c'est incroyable, c'est fantastique. Et comme je le disais et je le répéterai jamais assez, l'importance d'avoir un réseau social, que ce soit des voyants ou des non-voyants, je pense qu'on a besoin des deux. Je pense que c'est important.
Oui, c'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi. Mm-hmm.
Et
les non-voyants comprennent, en tout cas. Ce qu'on vit.
Ben, ils comprennent, puis tu l'as aussi dit, ils peuvent nous apporter des trucs. On peut prendre des exemples sur des façons de faire de d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques. Puis à mon avis, ça a pas de prix. Ça, dans des groupes de non-voyants, moi je me dis, on peut prendre ce qu'il y a à prendre, apporter ce qu'on a à apporter. Sortir de la maison, passer le temps, faire des activités, ça fait déjà plusieurs raisons.
On peut manger en masse.
Oui, souvent les activités qui ont un repas, là, ça pogne. Hein, ça...
ça pogne avec la bouteille de vin.
Oui, en effet. Mm-hmm. Bien, en tout cas, ça a été très agréable de se parler. Je pense, comme je le dis, qu'on a appris beaucoup de choses. On a mis en lumière, là, je sais que le mot lumière, hein, c'est pas tout le monde qui voit la...
Oui.
Mais on a quand même mis des choses en évidence encore aujourd'hui, ensemble, et ça a été très agréable.
Je te remercie beaucoup, Martin.
Ben, il n'y a pas de problème.
J'ai trouvé ça très plaisant, moi aussi.
C'est partagé. Un gros merci.
Merci à toi.
C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflète pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt !